Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
La belle passe de Dembélé pour Mbappé dans la surface de réparation. Allez, Kylian, le passement de jambe, la frappe, et le but ! Kylian Mbappé est dans sa Coupe du Monde.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h tout pile sur RMC. Bonsoir à tous, bienvenue dans Rotten sans flamme. On finit la semaine en beauté. Pourquoi en beauté? Parce que déjà il y a encore des matchs de Coupe du Monde, parce que vous allez voir le casting aujourd'hui du jour, magnifique, on a ramené du lourd. Forcément, il y a l'équipe de France qui joue son 8e de finale demain contre le Paraguay à 23h. Donc là, il y a du pouvoir d'achat, je peux vous le dire. On est avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Ah ouais, super. Salut Jérôme, salut à tous.
Ah Benoît.
Ah bah oui, chez les consultants, il y a du pouvoir d'achat.
Ah oui, oui, il y en a. Là, ils sont gavés.
Manu Petit, il y en a le plus,
notre champion du monde. Ah, ça faisait quelques jours qu'il n'était pas venu dans Hôtel Santa.
Salut Manu, comment ça va?
Bonjour tout le monde.
Je te voyais passer en Vélib là, mais t'avais pas envie de t'arrêter.
Ils étaient trop chauds.
Ouais. On est bien sûr à la brasserie Flora dans le 9e arrondissement, c'est sur ça. Les grands boulevards, Manu.
Ouais. Ouais. C'est ça, hein. Je confirme.
Voilà. Vous pouvez voir Jérôme et Manu en chair et en os. Hein. Venez, boulevard Poissonnière, régalez-vous, on est là jusqu'à 20h.
Nous, ça va. Il y en a un, vaut mieux pas le voir en chair et en os, c'est Christophe Dugarry. Salut Dugarry.
Salut les copains, comment ça
salut
va
salut Dugarry.
Ça va et toi?
Ça va, écoute, tranquille. Hein. On a eu encore quelques petits matchs sympas hier. On va débriefer tout ça, donc je suis content d'être là.
Exactement.
On va en parler.
Écoute.
Merci à tous pour votre fidélité en termes de podcast. Je vous rappelle que si vous voulez écouter les podcasts de Rotten sans flamme, faut aller sur l'appli d'RMC, vous téléchargez l'appli d'RMC, vous écoutez les podcasts. Vous allez sinon sur Spotify ou Deezer parce qu'on a quelques petits soucis avec Apple Podcast. Donc si vous voulez écouter les podcasts de Rotten sans flamme, c'est avant tout sur l'appli d'RMC.
On attend encore les téléphones.
On est ravis d'avoir des champions du monde 98, Jérôme, parce qu'on va parler forcément de ce France-Paraguay demain 23h sur RMC à 19h, Rotten se chauffe. L'osmose collective, la bonne ambiance dans le groupe, est-ce que c'est la clé de la réussite? On fera le point avec nos envoyés spéciaux.
Ça ne rajeunit pas, ils l'ont joué les deux, Dugarry et...
Ah c'est dingue, 28 ans.
Et Manu, ça fait 40 ans.
J'ai revu le match d'après-midi, t'as été énorme Manu, t'as été le meilleur milieu de terrain et de loin.
T'as revu le match?
J'ai revu les matchs cet après-midi.
T'as du temps, c'est ce que j'allais dire Dugarry, t'as du temps à perdre.
Et j'ai vu ta note dans l'équipe.
Surtout ce match-là, franchement, c'était pas le match à voir.
Quand même, je voulais revoir ce que ça donnait quand même. Incroyable.
C'était laborieux. C'était laborieux. Ils avaient trop chaud.
Manu, il a eu 6 dans l'équipe. Deschamps, 4,5 ce jour-là.
De toute façon, toute la compète, la Dèche, il a eu 4.
C'est vrai. Diomède, 4,5.
Ouais. J'ai bien fait de venir. Dédé, si tu nous entends.
Dédé ou Diodio?
Dédé, je suis pas
sûr. Oh, les deux.
Ouais.
Bon, on en parlera en tout cas. De France Paraguay,
c'est l'émission de divertissement.
Ah, non, à mon avis, il doit sans doute que c'est une boutade.
Ah, ouais, certainement. Dugarry vous l'a dit, on a eu des grands matchs hier, notamment ce Portugal-Croatie. On y reviendra avec Adrien Silva, international portugais, qui sera avec nous à 18h45. Les Portugais qualifiés pour les huitièmes, ils iront défier l'Espagne. On parlera également des nations africaines à 19h30. Comment expliquer le plafond de verre des nations africaines? Elles étaient 9 qualifiées en 16e de finale. Pour l'instant, une seule est qualifiée pour les 8e, le Maroc. Il y a encore 3 chances avec le Ghana et le Cap-Vert et l'Égypte aussi qui jouera ce soir dès 20h sur RMC contre l'Australie. Et puis un grand procès. On va faire le procès des Argentins. Les Argentins qui misent tout sur Léo Messi. Ça énerve un membre de la Dream Team. Rendez-vous à 18h30 pour reparler donc des Argentins qui se contentent comme ça d'alimenter Messi pour essayer d'aller...
Ça énerve un membre de la Dream Team.
Un deuxième titre
consécutif. Mais c'est ton thème en fait, il faut le dire aussi.
Pas du tout.
Ça te tenait à cœur celui-là.
Ah, ça me tenait à cœur, parce que vous n'êtes pas d'accord. Et c'est tout l'intérêt du débat.
Oui, oui.
Eh oui. Il y en a qui se prosternent comme ça devant les stars.
Il en fait des caisses. Le teasing, il en fait des caisses.
Alors j'imagine quand il t'a appelé Dugarry pour te convaincre.
Vas-y. Dévoilons les coulisses, Dugarry. Qu'est-ce qui s'est passé quand je t'ai appelé? Vas-y.
Arrête.
Non.
Pas, t'es démasqué comme
du
ça.
Panel.
C'est
allez, c'est non, bon. Allez, croyez-moi. Ça sera un grand procès et tout le monde est convaincu de. Vous êtes convaincu de vos arguments.
Oui.
C'est sûr.
Rejoignons Arthur Perrault qui est à Philadelphie, au plus près de l'équipe de France, en cette veille de France-Paraguay. Salut Arthur.
Salut messieurs. Bonsoir
Arthur.
Salut Arthur.
Arthur, il faut que tu nous parles de cette vague de chaleur ultra dangereuse. Il fait 40 degrés à Philadelphie.
Heureusement qu'il a affûté, Arthur.
Ah, ça y est, c'est Evelyne Delia. Ah,
oui. Alors, comme Jérôme voulait que je me transforme en Monsieur Météo la dernière fois, je vais vous la faire en détail cette fois-ci. D'abord, vous parler des conditions d'aujourd'hui, puisque je suis sorti il y a une petite heure dans la rue. C'est irrespirable. 11h, heure locale, ici, 36 degrés dans la rue. Il y avait une parade de prévue aujourd'hui à Philadelphie pour les 250 ans des États-Unis. On rappelle que Philadelphie est surnommé le berceau de la démocratie américaine, parce que c'est là que les pères fondateurs ont signé la déclaration d'indépendance en 1776 et adopté la constitution des États-Unis en 1787. Donc tout cela a été annulé. Pour ce qui est de demain, le National Weather Service, l'équivalent de Météo France, a déclenché l'alerte pour chaleur extrême jusqu'à 20h heure américaine. Concrètement, selon les prévisions actuelles de l'organisme fédéral, les Bleus joueront sous la canicule avec une température aux alentours de 37 degrés pendant l'intégralité du match. La mauvaise nouvelle, et c'est ce que je vous disais, c'est ce que j'ai ressenti tout à l'heure, cette chaleur caniculaire va être doublée d'une grosse humidité. Entre 17h et minuit, le taux d'humidité oscillera entre 37 et 72% et ne fera que monter au fil des minutes. Voilà, une vraie chance de pluie aussi, selon les données de NWS pendant ce huitième de finale, avec également quelques averses orageuses à prévoir pendant cette rencontre. On rappelle que dès qu'il y a un éclair dans un périmètre d'environ 30 km autour du stade, eh bien il y a ce match qui est arrêté pendant 30 minutes.
Donc forte chaleur attendue, risque d'orage demain 23h l'envoi de France Paraguay. Ouais.
Il va finir à 3h du match ce match.
Ah bon, on n'espère pas.
Il manquerait plus qu'un nuage de criquet, on est bon quoi.
Pourquoi pas. Allez tout de suite, merci Arthur.
Heureusement qu'on le commande pas.
18h07 sur RMC. Voilà, c'est fini pour la page météo, mais vous l'avez compris, il y aura de fortes chaleurs demain pour ce match à Philadelphie entre les Bleus et les Paraguayens. Et justement tout de suite, retour en 98, le jour où la lumière est venue de Laurent Blanc.
Nous sommes dans une phase extrêmement précise, extrêmement tendue, extrêmement passionnée.
C'est le match le plus important de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde.
Je répète, et indulgence, et on peut tous rater, c'est pas grave, hein. On s'arrête pas, on continue.
Ce sont soit les vacances, la fin du rêve, la fin de l'aventure, soit la route qui continue vers un quart de finale.
Allez, hop, c'est parti. Allez, les mecs.
Et c'est fini. 0-0 à la fin du temps réglementaire. Le Paraguay et la France vont donc jouer la première prolongation de cette Coupe du Monde 98.
Allez les gars, faut le rentrer dans la gueule. Hein. C'est dur, on s'approche. Hein.
Mais il faut être compact. C'est pas chacun son tour, c'est tout le monde ensemble.
Oui. C'est fini. Plus de Laurent Blanc. La France est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. La
Les Paraguay vont prendre une rouste. Les Paraguay vont prendre Pampan Cucu, je te le dis.
RMC, intégrale Coupe du Monde.
Les yeux humides de Manu Petit, ça l'a touché, le commentaire de France-Paraguay, regarde, t'as vu là, l'œil qui brille, regarde Jérôme.
J'ai passé l'âge.
Ah, incroyable, demain 23h.
La bière qu'il vient de boire, c'est toujours plus.
Il y a tout qui brille,
les yeux qui brillent.
Ouais, certainement.
C'est le Perrier qui m'expose les yeux.
Ce huitième de finale de Coupe du Monde entre la France et le Paraguay, ça nous rappelle forcément le huitième de finale de 98 à Lens. Les Bleus de Duga, de Manu, poussés en prolongation.
Forcément, fallait être né encore, forcément lui, marrant lui.
Ah, c'est pour ça qu'on on va rafraîchir la mémoire de nos jeunes auditeurs, ou alors on va leur expliquer ce qui s'est passé ce jour-là avec Florent Germain qui est là. Salut Flo.
Salut les amis. Moi j'étais né, on était beaux, on était jeunes, on mettait du gel dans les cheveux encore à l'époque.
Et on était à fond derrière les Bleus. Raconte-nous ce match interminable jusqu'au fameux but en or de Laurent Blanc.
Oui, c'était le 28 juin 1998, ce match à Lens, une chaleur effectivement, les températures élevées, il fallait battre, marquer contre José Luis Chilavert. Zidane était suspendu, c'était son dernier match de suspension, donc très stressé forcément depuis les tribunes, et même je crois qu'il s'était rapproché du banc de touche sur la fin de la rencontre. Il y a eu une trentaine de frappes au but, dont un poteau de Thierry Henry, et puis on l'a entendu dans la petite prod, les prolongations, la 114e minute minutes, une énorme pression parce que la peur qui commence à s'installer. Et puis ce but en or, la France est quand même le pays qui a le plus profité de cette règle éphémère du but en or, hein, faut le rappeler aux plus jeunes peut-être. Un but marqué dans une prolongation et c'est terminé, parce que deux ans plus tard il y a eu la demi-finale de l'Euro contre le Portugal et la finale de l'Euro contre l'Italie où les Bleus avaient aussi profité du but en or. Et d'ailleurs là, contre le Paraguay, on retrouve Robert Pires, on retrouve David Trezeguet, une remise de la tête très astucieuse, assez remarquable de sang-froid d'ailleurs de Trezeguet pour la reprise de Laurent Blanc qui fait ça avec un slalom qui se jette sur ses coéquipiers. Barthez qui semble mettre un petit peu de temps pour se rappeler que c'est le but en or, donc une minute après il va célébrer et il retrouve ses coéquipiers rejoints par Zidane. Et cette image forte, tous les Paraguayens qui sont en larmes, qui sont au sol, qui sont relevés par leur capitaine Chilavert. Et d'ailleurs Deschamps disait en conférence de presse il y a quelques jours que lui ne parlait jamais de son passé avec ses joueurs parce qu'il estime que ça fait un peu vieux combattant. Bah, du côté des Paraguayens, on reconnaît que c'est un traumatisme, ou que ça a été un traumatisme au pays, et qu'on n'a pas oublié ce 28 juin 1998.
Merci Flo, c'est la une de Rotten sans flamme ce soir sur RMC, veille de France-Paraguay. Est-ce que vous redoutez le même scénario qu'en 98, 32-16, pour participer avec nous? Est-ce qu'on convoque les souvenirs de Manu et de Duga, Jérôme? Manu, ça t'évoque quoi toi, France-Paraguay? Tu me disais avant l'émission, peut-être le match le plus difficile de cette Coupe du Monde.
Oui. Il y en a eu d'autres également, mais celui-ci, physiquement et nerveusement, a été probablement le match le plus compliqué à gérer, parce que on a eu une tra-dominance dans ce match-là, la possession de balle. Mais un mal fou a percé ce coffre-fort défensif. Une volonté affichée et assumée, je pense, de la part des Paraguayens d'aller jusqu'au tir au but, parce que leur star, c'était Chilavert, le gardien. Et il y avait de la roublardise aussi, du vice sur le terrain. C'était un combat perpétuel pour gagner chaque duel sous la chaleur écrasante.
Donc, je me souviens pas, Manu, excuse-moi, mais peut-être que tu as donné la réponse, ou Duga, mais l'équipe du Paraguay, alors tu parles de Chilavert, ça on le connaît, mais est-ce qu'il y avait d'autres joueurs, des joueurs qui jouaient?
Je n'ai pas souvenir, peut-être que Benoît va citer certains noms.
Des joueurs très connus, non, il y avait un défenseur, Arce, là, qui était un bon joueur, mais sinon il n'y avait, pas de grande star au Paraguay.
Donc ça ressemble au Paraguay d'aujourd'hui.
Ça ressemble un peu, ouais, d'accord.
Exactement.
Voilà. Donc très sincèrement, c'était des guerriers, quoi. On va pas dire, sans manquer de respect, des anonymes du football, mais sur le terrain, c'était des chiens, quoi. Ils se battaient pour tout. Ils étaient toujours à deux sur chaque ballon. Donc c'était un combat physique, mental, et il fallait surtout pas sortir du match, parce que à chaque fois, quand ils pouvaient utiliser le vice et la roublardise, avec la chaleur et la fatigue, tu vois, et la pression, à n'importe quel moment, n'importe quel joueur peut sortir de son match. Ouais, donc il y avait une volonté vraiment affichée de nous faire péter les
points. Ouais. Duga, tu l'as vécu comment? Toi, t'étais blessé à ce moment-là. Tu t'étais blessé à la cuisse lors du deuxième match de poule. Ouais. Comment tu le vis, ce France-Paraguay?
Je m'en souviens pas très bien, pour tout te dire. Je suis sur le banc de touche. Voilà, je me souviens que c'est tendu, c'est compliqué, c'est énervant, ce match. Voilà, c'est beaucoup d'émotions assez négatives parce que tu peux pas perdre, t'es à domicile, tu peux pas perdre contre le Paraguay en huitième de finale, c'est pas possible. Après être sorti des poules assez bien, voilà, c'est la compétition, elle commence maintenant. Il y a rien de pire. Bien sûr que c'est un match piège, mais pas tant que ça non plus. C'est un match où on a très peu de réussite et où ils mettent beaucoup de coups d'intensité, de coups. Ils ont quelques situations, mais pas énormément non plus. Après, demain soir, ça va pas du tout ressembler au même match, à mon avis, voilà, c'est pas du tout les mêmes forces en présence non plus, même si le Paraguay va jouer avec la même ADN, avec la même identité de jeu. Ça, je pense que ça changera pas beaucoup, parce qu'ils ont pas grand chose d'autre à pouvoir proposer, comme c'était le cas en 98. Mais par contre, voilà, je pense qu'aujourd'hui, l'équipe de France a des armes supérieures à ce qu'on avait en 98.
Tu penses pas que les Paraguayens seraient capables de reproduire ce qu'ils ont reproduit depuis le début de la compétition, hein, ou même pendant les phases d'élimination à Am-Sud, où ils ont perdu qu'un seul match, hein, sur la plus petite marche contre le Brésil.
Ils ont fait contre l'Allemagne en 16e.
Oui, exactement. Tu penses pas qu'ils vont mettre le bus devant devant les 30 mètres?
C'est ce qu'ils vont essayer de faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'équipe de France a une telle gamme offensive qu'elle sera capable de trouver, de déverrouiller tout ça et de trouver la solution. Après, oui, de toute façon, ils ont que ça comme arme. Ils vont pas proposer autre chose. Hein. Sincèrement, ils sont pas capables d'aller attaquer, ils sont pas capables d'aller marquer. Donc voilà, ils vont jouer avec le plus d'intensité possible. Est-ce que la chaleur va avantager les Paraguayens ou les Français? Ça, c'est plutôt le gros sujet. Voilà, c'est peut-être, à mon avis,
il faut de l'énergie, hein, pour voir le
confort. En faveur, voilà, en faveur des Paraguayens peut-être. Je sais pas, est-ce que les joueurs paraguayens ont l'habitude de jouer sous de fortes chaleurs ou pas plus que les Français?
Il y en a beaucoup qui jouent au Brésil, hein, en Amérique du Sud.
Beaucoup jouent au Brésil, donc tu vois, ils ont peut-être plus l'habitude de jouer comme ça avec des conditions extrêmes que nous. Donc ça peut nous porter préjudice, mais je crois quand même qu'on y arrivera.
Est-ce que tu crains, tu redoutes un scénario comme en 98, toi, Jérôme?
Écoute, c'est Dugas qui le disait, même Manu, on est tous d'accord pour dire que déjà, ça fait 30 ans, avec tout le respect que j'ai pour Manu et Dugas, aujourd'hui, la génération paraguayenne, elle n'a pas connu cette génération du Paraguay à l'époque, qui était capable de, en effet, de nous contrer à domicile dans notre Coupe du Monde. Donc c'était une vraie performance. Il y a des ressemblances forcément, mais ça c'est le destin, c'est les signes du destin. C'est-à-dire que c'est une... Pour eux, c'est une revanche. Pour les supporters, je te parle, hein, c'est une revanche pour les Paraguayens, une revanche par rapport à ce qui s'est passé en 98. Est-ce qu'on peut prendre ça comme une revanche? Est-ce que eux vraiment étaient déçus d'avoir perdu? Oui,
dans on peut y voir des similitudes en tout cas.
Mais tu peux y voir des similitudes.
Huitième de finale, la chaleur.
Voilà, c'est ça. C'est
le ultra favori.
C'est le seul truc. Et puis, je pense un gardien qui pouvait se transcender, qui était Chilavert à l'époque, et aujourd'hui le gardien. Gardien paraguayen, parce qu'on l'a vu contre l'Allemagne, il était bien chaud, tu vois. Donc,
Orlando Gil.
Donc il faudra, et comme dit Dugas, aujourd'hui, je pense que le football a évolué. C'est pas le même football. Je trouve que offensivement, les joueurs sont vraiment tournés encore plus. Même les joueurs offensifs sont tournés vers l'avant. Ils prennent beaucoup de risques dans la percussion, les dribbles, les frappes. Donc je pense qu'on aura beaucoup plus de situations que s'était procuré l'équipe de France 98. Donc à partir de là, je pense qu'on a quand même les moyens d'être efficace. On l'a vu, et ça c'est la grande force de la France aujourd'hui, c'est que Mbappé, il est dans une de ses meilleures formes. Olise dans la forme de sa vie. Dembélé, même si sur le dernier match il était encore un peu effacé, mais il n'empêche qu'il a montré qu'il était là. T'as Barcola, t'as Doué, t'as Cherki. Oh, franchement, je pense que
Cherki pour l'instant.
Non, je te parle en si jamais on arrivait à se prendre le mur à chaque fois et que t'arrives pas à faire la décision à la 60e, à la 70e, je pense
qu'il y a des options sur le banc.
Voilà, beaucoup plus qu'à l'époque et beaucoup plus que l'équipe d'Allemagne qui est tombée sur un os il y a quelques jours. Donc moi je suis pas forcément inquiet.
La chaleur c'est un handicap pour l'équipe.
Oui, chaleur, c'est une certitude.
Non, mais pour le rythme, quand t'attaques, c'est plus dur que quand tu te contentes d'être recroquevillé dans le but. Non,
redoubler les efforts, en fait. Ouais. Dès que tu commences à sprinter, en plus, l'humidité, on l'a vu en 2002, le match d'ouverture contre le Sénégal.
Ouais.
Moi, sur le terrain, chaque fois que je sprintais, j'avais du mal à récupérer mon souffle parce que ça me brûlait dans la gorge. Ouais. Et en fait, avant même de rentrer sur le terrain, t'es déjà en transpiration totale. Donc c'est très difficile à gérer l'humidité et la chaleur, en fait.
C'est plus sur le rythme d'un match, tu vois. On a tout
le Paraguay en 98, c'est le seul match de ma vie où je sors sous crampe.
Ah ouais?
Je suis déshydraté, j'ai perdu 7 litres d'eau. Parce qu'il y a une balance dans le vestiaire, je me suis pesé 7 litres d'eau.
7 litres.
Je suis déshydraté, j'ai la bouche pâteuse, j'en peux plus en fait, j'ai des étoiles dans les yeux.
Non, puis c'est dur, Manu le dit à travers son expérience, mais je pense qu'on a tous connu des matchs à forte chaleur. C'est le second souffle très compliqué d'aller le chercher, et puis surtout le rythme, t'es un peu empâté, quoi, tu vois. Donc quand t'as une équipe qui te propose une attaque défense, t'as une équipe très défensive, forcément l'équipe offensive où t'essayes de trouver des solutions à travers la vitesse d'exécution, la vision et tout ça, bah t'as un temps, t'es un petit peu en retrait. Donc oui, ça peut jouer sur, ça va jouer sur le rythme du match.
Regarde ce qu'a dit Tourelle, le sélectionneur des Anglais.
Qui va jouer à Mexico contre le Mexique en altitude.
Stade Aztec, hein, qui est une forteresse quand même.
Ouais.
En sachant qu'ils sont, je ne sais pas combien de par rapport au niveau de la mer, c'est impressionnant. L'altitude.
2000 mètres d'altitude.
Ouais, c'est un truc de fou. Donc il a dit, d'un point de vue physiologique, les médecins s'accordent à dire que pour s'acclimater à ce genre de conditions météorologique, il faut venir au moins 10 jours avant l'événement, ou alors venir au dernier moment pour que le corps ne soit pas impacté tout de suite.
Ouais.
Donc tu peux t'imaginer la complexité pour gérer face à des joueurs qui ont l'habitude de jouer sous ces conditions.
Ah oui. Ouais, mais là, il n'y a pas l'altitude demain, c'est juste la chaleur pour les deux équipes.
Je parlais de Mexique contre l'Angleterre, mais j'imagine que le Paraguayen, génétiquement, ils sont un peu plus aptes que nous à supporter certaines conditions.
Mais Duga, après on le disait, c'est que la force de cette équipe de France, c'est aussi la qualité technique des joueurs offensifs. C'est ça qui doit nous permettre de faire la différence. Le trio Olise, Dembélé, Mbappé, oui, la variation.
Oui, et puis tu sens que cette équipe, elle a la maturité, on en parlera tout à l'heure, mais le plaisir de jouer ensemble, ils arrivent à trouver des solutions. Ils ne dominent pas outrageusement pendant 90 minutes tous leurs matchs, mais ils arrivent avec leur patience, avec. Voilà, il y a différents profils de joueurs capables. On parlait de Doué, on parlait de Barcola, un peu plus la profondeur, un peu plus la technicité dans le petit jeu, les petits espaces. Voilà, aujourd'hui, cette équipe de France, elle arrive à trouver des solutions. Alors, on lui pose pas énormément de problèmes non plus depuis le début de la compétition. Peut-être que les Paraguayens leur en posera un petit peu plus parce que pour le coup, ils vont mettre le bus, plus notre bus un autre bus. Donc voilà, donc il faudra peut-être encore être un petit peu plus patient qu'à son habitude. Mais, voilà, une fois que tu vas avoir marqué le premier but, voilà, même si ça va être certainement le plus délicat. Je vois pas, ils ont tellement peu d'armes à proposer. C'est-à-dire que moi je veux bien qu'une équipe elle défende quand même, mais comment tu peux faire pour défendre quand tu n'es pas capable non plus de créer le danger? Il faut aussi être capable par moment de faire peur à l'adversaire. Quand t'as un adversaire qui va jouer dans tes 40 derniers mètres parce qu'il n'était pas capable d'offensivement de proposer quoi que ce soit, parce que les Paraguayens, ils ont proposé absolument que dalle depuis le début de la compétition.
T'avais des équipes faire ça aussi pendant le mondial du Gab et qui ont réussi, quoi. Je vois le Cap Verde contre l'Espagne, l'Allemagne. Ouais, oui, mais.
Yamal est rentré en fin de match, ça a tout changé quand même. Ouais, tu vois, dès qu'il y avait du talent.
On peut pas écarter aussi l'hypothèse que l'équipe de France tombe dans le piège, commence à devenir frustrée, à s'énerver.
C'est sûr.
Avec la chaleur, la fatigue, la pression, sur 120 minutes.
Est-ce qu'ils vont tenir 120 minutes sans prendre un but face à cette attaque-là, quoi?
Non, mais en plus, ce qui peut être rassurant, tu vois, moi, j'ai vu deux matchs. J'ai le deuxième, là.
Le Paraguay?
Il gagne.
Contre la Turquie. Il gagne 1-0, il finit à 10. C'est un miracle.
Celui-là, j'ai vu que le résumé, mais j'ai vu les deux matchs complets. Donc, le premier contre les États-Unis, où ils se sont fait démolir. En première mi-temps, il y a 4-0. Il y a même un but qui est refusé, mais ils en prennent 4.
Ouais.
Je peux te dire que les États-Unis, qui n'ont pas notre talent.
Ouais, mais hormis ça, ils ne prennent pas de but.
Oui, bon, après, ils ont joué.
Ils n'en marquent pas non plus.
Ils ont joué l'Australie.
Je suis d'accord.
Tu vois, et l'Australie, c'est. Je pense qu'ils défendent moins bien que les Paraguayens parce que moins truqueurs et tout ça. Mais je pense qu'offensivement, c'est aussi le calme complet. Là. Tu vois, donc ça a donné un match 0-0. Ils auraient pu jouer 400 minutes. Je pense qu'il n'y aura pas eu une occasion.
La force pour moi des Bleus, et c'est pour ça que je suis relativement inquiet. Pour tout vous dire, je ne suis pas inquiet. Hein. Je pense que l'équipe de France se qualifiera. Je pense que son potentiel offensif lui permet à la fois d'être performant sur des phases de transition, sur des attaques placées ou des exploits individuels. Donc en fait, tu as toute la panoplie rêvée sur le plan offensif, même pour percer un coffre-fort qui
permet nécessaire.
Oui. Ouais. Donc avec la patience, je pense que tôt ou tard, ça se décantera.
Et c'est à 23h demain, ce France-Paraguay, 8e de finale de la Coupe du Monde, à suivre sur RMC. On en reparlera à partir de 19h. On parlera justement de cette osmose dans l'équipe, l'entente entre tous les joueurs. Et dans un instant, dans Rotten sans Flamme.
On va en parler.
Eh ouais, les câlins, ça compte. Ouais. En direct de la brasserie Flora, on va parler des Argentins qui jouent ce soir à minuit contre le Cap Vert. On va ouvrir le procès des Argentins qui misent tout sur Léo Messi. À tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h. Rotten sans Flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Lionel Messi qui s'élance, qui frappe et qui marque. Go! Qui met son 19e but en Coupe du Monde à ce rythme-là. Attention, il peut aller très 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 loin.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h29 sur RMC, on est là, on est bien à la brasserie Flora, Rotten sans flamme, délocalisée. Toute la Coupe du Monde dans le 9e arrondissement sur les grands boulevards de Paris. Venez, il y a une belle terrasse, il fait beau, il fait chaud, il y a du monde. Et c'est magnifique, on est avec Manu Petit, on est avec Benoît Boutron et avec Christophe Dugarry. On continue l'émission, on est là jusqu'à 20h, mais là on va parler de Léo Messi.
Dans un quart d'heure, on parlera du Portugal avec un ex...
Peut-être le dernier match de Messi avec l'Argentine.
Ah bah peut-être. Tu le souhaites ?
Bah non, je ne le souhaite pas.
Mais, pour nous, tu le souhaites ?
C'est possible.
Adrien Silva, ex-international portugais avec nous à 18h45. Et justement, tu en parlais, Jérôme, la nuit prochaine à minuit. Argentine-Cap-Vert, un match à suivre sur RMC. Et Edgar Groslot sera au commentaire. Salut Edgar.
Salut Benoît, salut Jérôme, salut tout le monde.
Edgar, tu es à Miami, l'endroit où le match va se dérouler.
Oui, mais Edgar, il a compris, lui, Miami.
Ah bah, il est malin, t'inquiète pas. Ouais. Il a choisi,
Les bonnes destinations.
Bravo, t'es le meilleur.
Et justement, Edgar, Miami, c'est le fief de Léo Messi, hein, depuis quasiment 3 ans.
Oui, il est arrivé en 2023, et quand il est arrivé, il était déjà chez lui, puisqu'il pouvait déjà se voir peint sur les murs de la ville. Le premier qui a fait une peinture murale de Léo Messi à Miami, il s'appelle Alex Campos, et on l'a rencontré.
Avant même que son arrivée ne soit confirmée, j'ai pris l'initiative d'être le premier à créer un mural de Messi sous ce maillot rose de l'Inter Miami. L'impact a été mondial. On a parlé de cette fresque partout sur la planète.
Et depuis ce moment-là, son aura, son charisme, son impact à Miami n'a fait que grandir l'Argentine et partout aujourd'hui, 3 ans après son arrivée. C'est la ville de Messi, selon Josefina, qui tient un restaurant argentin.
Messi est devenu une éminence pour la ville de Miami. Il l'a révolutionné. On voit des enfants de toute nationalité qui portent le maillot de Messi.
Bon, et pour se sentir vraiment à la maison, Lionel Messi, il a ramené tous ses potes du Barça ces dernières années, Alba, Busquets, Suarez, mais aussi son grand ami Rodrigo De Paul, l'un des tauliers de la sélection argentine, qui joue aussi à l'Inter Miami et qui est très très proche de Lionel Messi.
Ça représente beaucoup pour moi d'être ami avec Léo. Pour moi, l'amitié est l'une des choses les plus importantes qu'on a tous et je me considère chanceux d'être là, de partager des moments en dehors du terrain avec lui. Ça me rend fier.
Bon, vous l'aurez compris, De Paul, Messi et tous les Argentins vont jouer à domicile ce soir et les Argentins, ils s'attendent à plus que l'ambiance habituelle en Coupe du Monde qui est déjà exceptionnelle avec les matchs de l'Argentine. Ils s'attendent vraiment à ce que ce soit l'une des plus grandes ambiances pour un match argentin de l'histoire des Coupes du Monde en dehors de leur pays.
Eh oui, on a hâte de voir ça, coup d'envoi à minuit. Merci Edgar, on attaque le procès tout de suite.
RMC, Roten sans flamme.
Comment votre équipe a pu en arriver là, Guy ?
C'est pas le moment de faire des philosopheries. Hein.
Vous paraissez découragé, Guy.
Non, pas du tout, mais vous m'emmerdez. Je vais pas faire un papier d'ambiance et on parle du match de Metz, non ?
Le procès de Roten sans flamme.
Embrasse Giroud.
La bonne époque.
Quel bonheur. La 6e Coupe du Monde pour Messi, 39 ans, et tous les espoirs argentins qui reposent sur ses épaules. Il est bluffant depuis le début de la compète. Il a inscrit 6 des 8 buts argentins. Et hier, son sélectionneur Lionel Scaloni a été interrogé sur cette Messi-dépendance. Je vous lis la déclaration du sélectionneur. D'autres joueurs ont eu des occasions, mais c'est Léo qui a marqué les buts. Ce n'est pas une source d'inquiétude. J'aimerais que les buts soient répartis entre plusieurs joueurs, mais tant que l'équipe joue bien et gagne, tout va bien. On va ouvrir ce soir le procès des Argentins qui misent tout sur Messi avec un procureur très en colère. C'est Christophe Dugarry, bonsoir.
Salut. Salut, comment il te vend ça?
Il est très en colère carrément. Non, mais il a...
tu vas bien les attaquer les Argentins quoi.
Oh non, mais je suis très en colère, mais t'imagines pas, c'est un truc.
Ah bah j'imagine, t'es remonté comme une pendule.
Mal à dormir.
On a deux avocats pour les Argentins. Manu Petit, bonsoir.
Bonsoir.
Et Jérôme Roten, bonsoir.
Bonsoir.
Et le verdict sera donné au 32-16 par Jean-Marc.
Bon dia.
Il va nous rejoindre. Est-ce qu'il est là, Jean-Marc? Ou est-ce qu'il va nous écouter? Jean-Marc sera avec nous d'ici quelques secondes, mais il écoute vos plaidoiries. Vas-y, Duga, tu peux exprimer ta colère concernant les Argentins.
Non, je pense que c'est une énorme erreur. Voilà, je ne suis pas en colère du tout, bien évidemment, vous l'avez bien compris. Mais je pense que c'est une profonde erreur. Parce que Messi, compter sur Messi, même si c'est le meilleur joueur de tous les temps, même s'il montre qu'il est en pleine possession de ses moyens, aujourd'hui, la compétition, c'est un match de plus, ça fait 8 matchs. Compter sur 8 matchs uniquement sur Messi pour essayer de marquer des buts, je pense qu'à un moment ou un autre, ça coincera. Voilà, je pense qu'en plus, l'Argentine a les moyens de proposer autre chose que Messi. Voilà, je pense qu'Alvarez est un bon joueur. Lautaro Martinez montre depuis des années qu'il est capable aussi de marquer des buts. Ils ont un milieu de terrain suffisamment créatif aussi pour créer des situations. Donc voilà. qu'il y ait une prédominance, Messi, c'est dans toutes les équipes pareil. Tous les grands joueurs, forcément, donnent une prédominance à leur équipe. C'est comme ça, ils attirent le ballon, ils attirent les buts. C'est pour ça que c'est les plus grands, c'est pour ça que c'est les meilleurs. Mais je pense que même l'entraîneur, s'il veut pas, il, à travers sa déclaration, même s'il veut pas, l'avouer de lui-même, il le dit, je préférerais que d'autres joueurs soient capables de marquer aussi. Mais c'est Messi qui le fait. Donc, par la force des choses, tant mieux. Et heureusement qu'il est là. C'est ce que disait Luis Enrique aussi. Il a dit, je préfère trois joueurs à 10 buts qu'un joueur à 30 buts. Je pense que c'est plus important pour poser des problèmes à l'adversaire et surtout quand la compétition va devenir de plus en plus difficile. Voilà. Il sera toujours plus difficile pour l'adversaire de bloquer, il sera toujours plus facile pour l'adversaire de bloquer un seul joueur, même si c'est le meilleur joueur de tous les temps, plutôt qu'en bloquer trois qui amènent le danger d'un peu de partout. Voilà. Et c'est aussi l'avantage de l'équipe de France, c'est qu'il n'y a pas seulement Mbappé, Olise ou Dembélé à surveiller. Voilà. Il y a les trois plus d'autres qui peuvent rentrer. Et je pense que ça, c'est une force pour un groupe, pour une équipe. Voilà. Et puis en plus, il peut arriver n'importe quoi. Mais si je le touche du bois, je ne lui souhaite pas, mais il peut se blesser. Il peut arriver qu'il n'est pas dans un bon jour, il peut être malade, il peut tout se passer. Donc c'est dommage et dangereux que de penser et que de compter que sur un seul joueur, aussi fort soit-il.
Parole à la défense, monsieur Roten.
Moi, en fait, il y a deux choses sur ce thème où je suis contre tes avis, Benoît. Et tu le sais parce que t'es pas le seul, mais en fait, vous nous emmerdez, je suis désolé, bon avec votre réflexion. La dépendance à un joueur, c'est problématique.
Donc, c'est pas le cas là.
Donc, non, mais ça a toujours existé. Ça s'appelle le football, dans tous les cas. C'est un sport collectif, mais tes meilleurs joueurs, forcément, rendre l'équipe meilleure parce que individuellement ils vont faire la bonne passe, le bon dribble, le bon enchaînement et le beau but et c'est ça qui rend le football merveilleux et forcément quand t'as un joueur qui marque autant de buts, qui donne autant de passes décisives, t'es obligé, n'importe quelle équipe où il a joué, rappelle-toi le Paris Saint-Germain, rappelle-toi Barcelone surtout, aujourd'hui à Miami et aujourd'hui en Argentine, c'est automatique que cette équipe elle est transcendée quand Messi est là. Et quand Messi est pas là, t'en fais pas, ils s'adaptent, ils ne deviennent pas des peintres pour autant. Donc après, il y a une stratégie, en effet, et Duga parlait de la stratégie avec Messi. Et quand tu regardes les stats, en effet, t'as l'impression que c'est que Messi qui peut marquer des buts.
Bah oui.
Mais c'est normal, la structure de l'équipe est faite comme ça. Si t'avais un autre entraîneur qui te propose autre chose, peut-être qu'il jouerait pas avec une ligne de 4 derrière, une ligne de 4 milieux qui sont plus des milieux de terrain. Des aboyeurs, des chiens là, tu vois, des mecs qui viennent casser l'équipe adverse plutôt que des bons manieurs de ballon et des bons créatifs. En effet, c'est la structure du sélectionneur. Il faut la respecter. Il a été champion du monde déjà comme ça. Aujourd'hui, quand tu regardes l'équipe de l'Argentine sur les 34 derniers matchs, il y a que deux défaites, une contre le Paraguay. En qualif de Sud-Américaine Coupe du Monde et le dernier match de qualif où ils étaient déjà premiers et sûrs d'être qualifiés en Équateur. Voilà, c'est les deux seules défaites. Sinon, derrière, c'est quasiment que des victoires. Donc Messi a pas joué tous les matchs. Donc même quand Messi est pas là, ils arrivent à faire tourner
mais
le compteur.
Mais quand il est là, ça équipe des joueurs.
Non mais il y a pas arrête avec cette réflexion là. Et moi je suis contre ça, la dépendance des grands joueurs, toutes les équipes l'ont. Bon. Toutes les équipes l'ont, mettez-vous ça dans le crâne. Ce que je veux dire, quand t'as un mec qui excelle dans la passe, il y a forcément une dépendance à ce joueur-là quand il joue. Mais quand il joue pas, les autres, ils doivent prendre leurs responsabilités. Le dernier match contre la Jordanie. Ouais, alors, c'était un match qui a... Oui, d'accord. Eh ben, écoute, Lautaro Martinez, Alvarez et d'autres, ils ont pris le relais. Ils se sont dit, c'est peut-être à nous de marquer des buts aujourd'hui. Ou Lo Celso sur coup franc. Bon. Écoute, est-ce que c'est problématique, ça?
Manu.
Oui, effectivement, comme dit Duga, il peut y avoir un risque sur la dépendance de Messi si jamais il est dans un mauvais jour ou s'il est blessé ou quoi que ce soit. Mais remettre en question ses 39 ans sur des conditions physiques parce que ce mondial a un match de plus, s'il veut aller au final et réitérer ce qu'ils ont fait en 2022. Moi, Messi, ça fait depuis 20 ans que je le vois marcher sur le terrain et qu'il attend le ballon pour créer de la magie. Donc, si on met le gardien de côté, il a 9 soldats derrière lui qui passent son temps à courir et à faire le sale travail pour lui. Et il faut pas réduire aussi l'équipe argentine seulement et uniquement à Messi, même si les stats sont là pour le prouver. Parce qu'il y a quand même des joueurs de talent dans cette équipe.
Mais est-ce qu'ils sont à leur niveau dans cette équipe?
À leur niveau, au niveau de qui?
Bah, est-ce qu'ils sont au niveau habituel qu'ils ont en club, par exemple, en sélection?
Pour l'instant, ils sont qualifiés. Ouais. Donc, si jamais ils gagnent contre Cap Vert.
Ils ont joué personne.
Oui, bah, d'accord, ils ont joué personne. T'as beaucoup d'équipes qui ont joué des adversaires de renom. Il n'y en a pas des masses non plus. Donc, quelque part, quand tu regardes la Coupe du Monde en 2022, ils sont champions du monde. Messi a fini meilleur buteur avec 7 buts et 4 passes décisives. Aujourd'hui, il en est à 6 buts déjà. Donc moi, je veux bien qu'on mette un petit peu une interrogation et il y a un danger sur la dépendance de Messi. Mais jusqu'à présent, il a toujours répondu présent. Et le jour où il ne sera pas là, si jamais dans le mondial, pour X raisons, il ne pourra pas jouer, je pense qu'il y aura suffisamment de talent et suffisamment d'esprit d'équipe du côté de l'Argentine pour relever le défi.
Le verdict de Jean-Marc.
Merci Jean-Marc.
Moi, vous m'avez toujours pas convaincu, hein, tous les deux, mais ouais, on va voir si Jean-Marc vous avait convaincu. Jean-Marc, qui remporte ce procès? Est-ce que c'est le brillant Christophe Dugarry ou les mauvais Manu Petit et Jérôme Rotten, alors?
D'abord, bonsoir la team, comment vous allez?
C'est qu'elle est dingue, lui. Et qu'elle, ça va? Et toi?
Ah, ben ça va très bien, impeccable. Bon, là, on regarde des matchs de foot, on prend du plaisir avec la Coupe du Monde qui est là. Donc, non, j'ai écouté tous vos arguments sur cette belle thématique, d'ailleurs. Et franchement, je suis totalement d'accord à la fois avec Dugarry et à la fois avec Jérôme, parce que vous n'êtes pas tombé d'accord pour ça. Alors, je vous assure, parce que, en fait, vous vous complétez dans le sens où, effectivement, moi, je trouve que l'Argentine, de base, c'est une très, très bonne équipe qui, effectivement, est très dépendante de ce qui est, pour moi, le meilleur joueur de tous les temps de manière incontestable. Mais je trouve qu'ils ont quand même des circuits de passe très développés. Ils savent ressortir le ballon proprement sous pression. Ils paniquent pas. Physiquement, ils sont là, ils lâchent rien. Ce sont des chiens affamés. Et je trouve que, effectivement, Messi, de par sa domination sur le terrain, sublime tout ça. Et on parle beaucoup des contributions décisives de Léo Messi. Mais au-delà de son aspect décisif, même s'il n'est pas décisif, il va porter par sa manière d'orchestrer le jeu, de créer des occasions pour les autres qui peuvent marquer. Alors c'est vrai qu'au point de vue des buts, de la répartition des buts, on peut penser que Léo Messi est un peu trop seul. Ça, je peux être un peu d'accord. Mais
il a toujours été comme ça, dans toutes ses équipes, ça a été ça.
Absolument, absolument, Jérôme, t'as raison. Et d'ailleurs,
donc merci Jean-Marc de me faire gagner.
Je crois que c'est Dugas qui gagne.
Alors en fait, vous complétez plus ou moins, parce que moi, je suis à la fois d'accord que Léo Messi, c'est l'élément essentiel de cette Argentine. Mais à la fois, l'équipe d'Argentine, je trouve que c'est une équipe très très forte, même sans Léo Messi. Ils avaient gagné 4-0 contre le Brésil, sans Léo Messi. Alors avec Léo Messi, ça aurait pu faire des petits soucis, c'est vrai. Mais je trouve quand même que Lautaro Martinez, par exemple, vous prenez un joueur comme Lautaro Martinez qui joue à l'Inter, qui est le capitaine de l'Inter Milan. Mais par exemple, en Copa América, il marque beaucoup de buts. En Coupe du Monde, c'est un peu moins le cas. On appelle même le nouvel Higuain, il vendange beaucoup, mais il y a un Julian Alvarez qui peut marquer des buts. Il y a Thiago Almada qui peut marquer des buts. Messi peut créer des occasions pour d'autres, pour ses coéquipiers qui peuvent marquer aussi. Donc je trouve qu'à ce niveau-là, ça, comment dire,
bon,
c'est la solution de toutes les manières.
Tu donnes bien la victoire à Dugas, alors? C'est bon?
Non, Jean-Marc.
Allez, faut trancher.
Mais écoute, il a annulé le procès.
Alors, s'il faut vraiment trancher, je suis plus d'accord avec Jérôme quand même. Mais du gars,
c'est bien. Pas, ouais, merci. Au moins, tu connais le football. Voilà. Benoît, même si Messi rate son match, même le fait d'être sur le terrain, il va aspirer deux ou trois joueurs. Donc, et toi, tu citais qui comme joueur qui n'est pas, soi-disant, pas au même niveau que.
Lautaro Martinez.
Mais Lautaro Martinez, tu te rends compte, il joue avec Marcus Thuram à l'Inter. Donc là, il faut se toucher la nuque quand tu joues avec Léo Messi. Mais qu'est-ce qui m'arrive, putain? Mais il me fait des bonnes passes. Non, mais c'est pas possible.
Merci à Jean-Marc qui est venu rendre son verdict au 32-16. Et dans un instant, allô Jérôme, on va reparler de la qualification portugaise avec un ex-international portugais, Adrien Silva, qui sera avec nous tout de suite sur RMC.
RMC, 18-20h, Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Ronaldo, continue. Face à Livakovic, face à l'histoire, et c'est au fond! Enfin Cristiano! Il a marqué en phase d'élimination directe de la Coupe du Monde, et le Portugal revient à hauteur de la Croatie un partout!
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
On est dans Rotten sans flamme, il est 18h47, ça passe vite hein, déjà les 10 dernières minutes de la première heure, mais vous inquiétez pas, on est de retour à 20h, à 19h, avec encore une bonne deuxième heure, avec plein de bons thèmes. On va continuer à parler de l'équipe de France, mais avant on finit la première heure avec Manu Petit, avec Christophe Dugarry et avec Benoît Boutron. Avec un invité exceptionnel.
Ouais, Adrien Silva, international portugais, qui va être avec nous d'ici quelques secondes. Je ne comprends toujours pas comment vous avez pu gagner le procès, mais bon, si ça vous intéresse, allez réécouter ça en podcast. C'était le procès de l'Argentine qui mise tout sur Messi. Et à 19h, on reparle des Bleus. L'osmose collective, est-ce que c'est la clé de la réussite?
Ouais, là, ils seront plein de câlins, tout
ah,
va bien.
C'est dingue, les câlins, les bisous, la voiturette, tout ça,
il y a le barbecue et tout.
C'est tout
beau,
qui fonctionne, quoi, l'équipe de France. Allez, on y va, c'est parti, allô Jérôme.
RMC, Rotten sans flamme.
Le centre deuxième poteau, la tête de Ramos Gonçalo Ramos, c'est l'homme du temps additionnel, c'est l'homme de la fin de match, c'est l'homme des victoires à l'arraché, le Portugal mène de buts à face à la Croatie.
Hello Jérôme.
Yes.
Cette victoire 2-1 des Portugais face à la Croatie hier, des Croates qui ont pourtant mené 1-0. C'est Ronaldo qui a égalisé sur pénalty. Vous avez vu cette stat, c'est la première fois qu'il marquait dans un match à élimination directe en Coupe du Monde, sa sixième Coupe du Monde, donc Ronaldo. La tête de Ramos dans le temps additionnel pour
six Coupes du Monde quand même.
En six Coupes du Monde.
Il en a mis deux, hein, parce qu'il y en a un refusé avec un petit hors-jeu.
Allégé. D'ailleurs, c'est l'histoire de ce match, les buts refusés. Il y en a eu deux refusés pour les Croates.
Ouais,
notamment le dernier capteur dans le ballon.
Le dernier.
C'est incroyable.
Bah, j'ai pas compris le capteur du ballon.
Et ben en fait, le capteur du ballon a prouvé que Matanovic avait dévié le ballon avant que Pazalic.
Écoute, moi j'ai vu un ralenti. J'ai l'impression qu'il passe à côté du ballon quand même.
Même lui, Matanovic, il l'a touché.
Mais d'accord, mais j'ai vu. Vous l'avez vu le ralenti ?
Oui, j'ai vu le ralenti.
Bah écoute. Bon, écoute, mais on va prendre l'invité, ça va être plus sympa.
Adrien Silva qui est là. Et bien sûr,
c'est pas bien parce qu'aujourd'hui, les joueurs ils doivent jouer sans bras et il faut qu'ils soient chauves.
Ouais, en plus, ouais, je te jure. Ouais.
C'est les cheveux maintenant. Avant, c'est les bras, c'est les cheveux. Ouais.
Bon,
Adrien,
en tout cas, t'as dû être content de la décision de l'arbitre. Comment tu vas?
Déjà, bonjour à tous.
Salut Adrien.
C'est un grand plaisir d'être avec vous. Beaucoup de respect pour. Ce plateau et
merci beaucoup.
Et surtout Christophe Dugarry que j'ai vu en tant que très petit à Chaban-Delmas.
Ah okay. Magnifique. Oui, Adrien est né à Angoulême, donc Adrien était fan des journaux de Bordeaux, c'est ça Adrien?
Né à Angoulême, heureusement que tu n'es pas resté à Adrien.
Bon Adrien, t'es soulagé aujourd'hui?
Bien sûr, tant qu'on gagne, on est toujours soulagé, hein. On sait comment ça se passe. Mais hier soir, j'étais pas si soulagé que ça pendant le match. Ouais.
Qu'est-ce que tu penses
justement, comment tu l'expliques justement que cette équipe portugaise, elle arrive pas à fournir plus de jeux que ça? C'est avec les individualités qu'elle a, c'est quand même étonnant quand même.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et même nous, en tant que Portugais, on a cette.
Moi, je déteste l'entraîneur. Donc moi, j'ai ma raison, mais moi, je déteste l'entraîneur. Mais vas-y.
Mais on sait tous que les meilleures individualités, on peut les avoir, mais si on crée pas une idée collectivement, ce qui est dur en sélection, d'en créer une, d'avoir du temps pour la travailler et faut être très rapide et très réactif les uns les autres pour pouvoir justement créer cette bonne dynamique, ce qui a été un peu mieux hier je pense jusqu'à la pause hydratation. La Croatie, j'ai vu une première période que la Croatie sortait pas de leur milieu de terrain et qui arrivait pas à créer de contre, ce qui n'a pas été le cas en deuxième mi-temps. Ils ont réussi à sortir beaucoup plus de ballons. On a laissé un peu trop d'espace aussi entre les lignes, justement, pour éviter ces contre-attaques et ce qui nous a créé beaucoup, beaucoup de dangers.
Adrien, comment c'est vécu déjà par toi et même au Portugal, parce qu'on entend beaucoup de critiques sur le sélectionneur. C'est quoi ton avis, toi, sur Martinez?
Écoute, c'est un poste très très compliqué d'avoir une génération comme ça à cette période-là. Je pense que ça, on est tous d'accord, c'est une des meilleures générations que Slayson a eu depuis des années et des années. Je pense que la dernière c'était en 2006, entre 2004 et 2006. Et donc c'est une tâche très compliquée de montrer vraiment du super football comme tout le monde aime, comme tous les supporters aiment. Mais au final, je pense que si il continue à gagner et qu'il arrive très très loin, je pense que ces critiques vont s'atténuer au fil du temps. Mais c'est sûr qu'on aimerait bien.
À la fin de la Coupe du Monde, non?
Comment?
Il doit pas quitter la sélection.
Oui, il a signé en Arabie Saoudite.
Il doit entraîner le club de Ronaldo. Enfin, il doit entraîner Ronaldo en Arabie Saoudite.
Ça, je sais pas si c'est déjà décidé, mais la décision de partir de la sélection, oui, elle est déjà prise.
Et ça fait partie d'ailleurs des faits de jeu hier. Il a osé sortir Cristiano Ronaldo avant la fin du temps réglementaire à la 81e. Ça lui a été beaucoup reproché depuis le début de la compète. Comment ça a été vécu ça au Portugal?
Je pense que c'est même pas... Bien sûr, on va parler de Cristiano parce que c'est le personnage à parler tout le temps. D'avoir pris sa décision à la 80e, c'est pas non plus à la 50e.
Mais
il a, pour moi, le plus important, c'était du point de vue d'ancien joueur et avec une vision différente, c'est d'avoir aussi enlevé Vitinha et d'avoir pris ses risques quand même, même d'avoir enlevé Cancelo. On dit pourquoi enlever un latéral droit, mais dès qu'il y a eu cette stabilité aussi de Nelson Semedo pour reprendre un peu l'équilibre et de prendre moins de rafales en contre, les choses sont calmées et c'est là aussi on a réussi à avoir la qualité de Ramos devant le but.
Et Ronaldo, justement, comment tu juges son mondial? Il a été beaucoup critiqué, on l'a critiqué ici aussi, notamment après le premier match. Quel est ton avis à toi sur Cristiano?
Bien sûr qu'on va pas avoir les mêmes dribbles, les mêmes actions phénoménales qu'il a eues pendant toutes ces années. Mais il reste beaucoup moins, il saute moins aux yeux, mais son poids, juste dans la tête des défenseurs, le laisser juste un millimètre dans la surface ou autour de la surface, ça crée déjà un déséquilibre dans l'adversaire. Et bien sûr, il y a moins de ballons qui lui arrivent, il y a moins de joueurs autour de lui, donc ça le laisse un peu trop seul de mon point de vue, et c'est ça qui lui manque un peu au fur et à mesure de la compétition.
Après Adrien, sur le match d'hier, autant moi j'ai souvent défendu Cristiano.
Oui.
Sur tout ce que tu viens de dire, en fait, le poids qu'il a, qu'il représente pour les adversaires, mais aussi l'aide qu'il a et la confiance qu'il peut dégager, transmettre à ses coéquipiers. Mais sur le match d'hier, moi je trouve que dans ses déplacements, ses prises de balles, il est un peu emprunté quand même. Moi, ça ne m'a pas rassuré, hein, vraiment, sur le match d'hier.
Oui, mais juste avant le pénalty, s'il n'est pas hors-jeu du nez, bah, il fait un super
match.
C'est vrai. Après, derrière, il y a le pénalty. On sait très bien le poids de ce pénalty à cette minute-là, en perdant. Malgré qu'il y ait beaucoup de qualité et de personnalité pour pouvoir le prendre, mais c'est quand même un moment clé du match et sachant la responsabilité qui prend à cœur vraiment de le faire.
Je trouve que le ressenti, c'est pas le même, tu vois. Autant je trouve qu'avec Messi, l'équipe d'Argentine, les joueurs à côté, ils arrivent à s'accommoder de Messi, de ce qu'il est, de comment il joue, de ce qu'il fait, de son attitude, de son charisme, tout ça. Mm-hmm. Autant je ressens pas du tout ça quand je vois jouer cette équipe du Portugal. Moi, j'ai commenté les matchs à l'Euro avec cette équipe du Portugal, où déjà Ronaldo, ça avait pas été fameux. Mm-hmm. Je trouve que, alors, est-ce que c'est la faute à Ronaldo ou c'est les autres qui sont frileux, fébriles parce qu'ils joue avec un immense joueur, mais je trouve que l'un n'aide pas l'autre. Je trouve que Ronaldo, alors est-ce que c'est par son attitude aussi où il réclame beaucoup de ballons, où je le trouve pas si serein que ça aussi? Je le trouve souvent énervé, moi, Ronaldo. Je trouve qu'il s'en veut, il est toujours dans une attitude. Oui, ça agace beaucoup, tu vois. Je trouve pas du tout que ça il apporte mentalement, psychologiquement, dans le charisme. Je parle pas de la technique, je parle pas des appels, je parle pas de la course. Tu vois, la confiance que ça devrait donner à son équipe, je ressens pas la même chose qu'avec l'Argentine.
Mais bien sûr, parce que Messi, c'est un rôle différent sur le terrain, donc c'est lui qui va organiser un peu tout offensivement. Là, non, il doit être servi. Donc c'est différent déjà. Mais en termes d'attitude, comme vous dites à propos de son attitude envers les autres, on sait déjà comment il est en termes d'ambition, de vouloir gagner. Et on sait très bien que c'est pas personnel et que c'est vraiment juste directionné vers ça. Donc personne ne le prend de cette manière-là.
Comment un milieu de terrain aussi talentueux que le Portugal peut ne pas trouver Cristiano Ronaldo? C'est que Cristiano Ronaldo fait de mauvais appels ou se rend pas disponible comme il faut. Parce que là, non mais quand t'as un grand buteur et un milieu de terrain aussi clairvoyant, aussi exceptionnel, qui donne des ballons toute la saison, ils donnent des ballons de rêve à tous leurs partenaires, et là ils arrivent pas à en donner un bon à Ronaldo. Il y a un truc qui ne va pas quand même. Ou alors c'est
la dynamique collective est différente et parce que le jeu n'est pas directionné pour Ronaldo dans les trois quarts du terrain. Elles sont plus sur les côtés. On va, d'accord, parce qu'il ne va pas faire des appels en profondeur centrale. Et quand il vient en appui, il est trouvé facilement, mais quand c'est dans le couloir central, il ne va pas être trouvé aussi facilement en profondeur. C'est plutôt sur les côtés qu'il doit être servi. C'est ça qu'ils essayent d'améliorer, parce que c'est pas en première intention, c'est pas de trouver Ronaldo. C'est ça.
Ouais, mais Adrien, j'ai une question à te poser.
Oui.
Est-ce que tu penses que le Portugal peut battre l'Espagne? Et si oui, que doit faire le Portugal?
Écoute, d'aller prier. Ça a déjà arrivé il y a pas longtemps.
À la Ligue des Nations.
On sait qui a remporté la Ligue des Nations.
Ouais, mais c'est pas le même contexte. Là, c'est une Coupe du Monde.
Mais c'est quand même une grosse compétition. C'est quand même l'Espagne qui était devant. C'était quand même la France. C'était quand même l'Allemagne. Donc on a dû quand même avec le même groupe devoir passer ces équipes, pas n'importe qui. Donc là, on a eu le Croatie qui est un des plus gros adversaires qu'on pouvait avoir en 16e. On a déjà réussi à surmonter cette belle épreuve. Maintenant, on va avoir la France, je pense que ça doit être la deuxième ou la troisième meilleure, avec l'Angleterre pour moi candidate. Il n'y a pas le choix, il faut y aller aussi et essayer de remettre les mêmes ingrédients pour pouvoir le passer. Après, comment? C'est à eux sur le terrain et le coach de trouver la recette, mais je pense que faut trouver un peu plus de solidité collectivement pour essayer de concéder un peu moins d'espace et d'occasion pour après. Ouais. Offensivement, on a plus que la qualité pour pouvoir, et on n'a pas que Ronaldo. On a vu très bien hier Lyon, qui était à un niveau que ça faisait longtemps que j'avais pas vu. Qui est en très bonne forme, Félix aussi, qui est même pas rentré mais qui est aussi en très bonne forme, Conceição, Neto, c'est quand même de très très gros joueurs qui peuvent décider à n'importe quel moment, et on l'a vu dans les plus gros championnats cette année.
Adrien, merci beaucoup d'être venu dans Rentrée sur Flamme sur RMC. Adrien Silva,
merci à vous tous.
Merci Adrien, à bientôt. Et le Portugal qui va donc défier l'Espagne en 8e de finale de la Coupe du Monde. 19h sur RMC, on est très en retard, on revient dans un instant, Rotten se chauffe. On va parler de l'osmose collective de l'équipe de France. Est-ce que c'est la clé de la réussite? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h. Rotten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Vous avez aimé la première partie? Alors écoutez tout de suite la deuxième partie de Rotten sans flamme.